Bon, ok, on va commencer notre 14e et dernière leçon de notre série sur la mortification du péché chez le croyant. Ce soir, nous allons voir la pratique de la mortification du péché. Alors, l'idée que Owen nous rappelle, c'est que dans les 13 premières leçons, il nous a montré comment se préparer à pratiquer la mortification. Alors, on va faire une brève révision de ce qu'on a vu jusqu'ici. Dans les sermons 1 à 3, on avait appris que la mortification du péché, c'est un devoir qui durera toute la vie et qu'elle est exigée même du plus spirituel des croyants. Et Owen nous avait rappelé aussi que le travail ne peut s'effectuer efficacement que par le Saint-Esprit. Dans le 4e sermon, on avait étudié le fait que la vigueur, la joie et le confort de notre vie spirituelle dépend fortement de la mortification constante du péché. Dans les sermons 5 et 6, on avait appris les deux côtés de la mortification du péché, ce qu'elle n'est pas et aussi ce qu'elle est. Dans le 7e sermon, Owen nous avait affirmé catégoriquement que seul un véritable croyant régénéré par le Saint-Esprit peut pratiquer efficacement la mortification du péché. Dans le 8e sermon, on avait constaté que seule une universalité de l'obéissance peut être efficace. Par exemple, nous ne pouvons pas sélectionner uniquement les péchés qui nous troublent ou qui nous font souffrir pour vouloir les mortifier. Nous devons accepter de les mortifier tous sans exception. Dans le 9e sermon, Owen nous avait introduit aux 9 principes spécifiques pour la mortification du péché. Le premier principe, c'est que la pratique de la mortification doit être précédée d'un sérieux examen de nous-mêmes pour savoir s'il y a présence d'un des 6 symptômes, d'un ou de plusieurs, qui indiquent que nous sommes dans un état spirituel pitoyable et que nous nous devons de réagir vigoureusement, à la fois par la grâce de Dieu et un combat quotidien et incessant pour reconquérir le terrain perdu. Remémorons-nous donc ces 6 symptômes. Le premier, c'est de regarder si dans nos cœurs, il n'y aura pas un péché qui est solidement enraciné, un péché invétéré. Deuxième symptôme, c'est de regarder si dans notre personne, il n'y a pas une fausse paix du cœur. La troisième principe, c'était de regarder s'il y a un péché qui connaît du succès fréquemment dans nos vies. Le quatrième, c'était de vérifier si nous pratiquions la motivation uniquement par peur du jugement ou du châtiment de Dieu. Cinquièmement, c'était aussi de vérifier s'il n'y avait pas une forme ou un autre d'endurcissement judiciaire dans nos vies. Et le sixième, c'était regarder si nous n'avons pas l'habitude de résister au châtiment que Dieu nous envoie, parce que si c'est le cas, à ce moment-là, ces mots, si un ou plusieurs de ces mots sont présents, ils exigent de grands remèdes. Le dixième principe, dans le dixième sermon, le deuxième principe, c'est-à-dire dans le dixième sermon, on avait vu le deuxième principe spécifique, qui est que nous devons posséder un sens clair de la culpabilité, du danger et des maux du péché. Dans le 11e sermon, Owen avait développé 5 autres principes spécifiques. Donc le 3e, qui était de charger sa conscience avec la culpabilité du péché. Le 4e principe était avoir très envie d'être libéré de la puissance du péché. Le 5e principe, de ne pas se donner d'excuses qu'un péché est enraciné dans notre tempérament naturel et dans notre constitution. Le 6e, c'était d'identifier les occasions qui facilitent l'éruption d'un péché et chercher par tous les moyens à les éviter. Le 7e principe, c'était de réagir très vigoureusement contre les premiers signes de la manifestation du péché dans nos vies. Alors, le 8e principe, qui était le 12e sermon, c'était l'importance d'utiliser et d'exercer des méditations constantes et profondes pour nous conscientiser de notre bassesse et de notre vilenie. Ceci est réalisé en méditant sur les perfections infinies de Dieu. Dans le 9e principe, qui était le 13e sermon, il nous avait fait une mise en garde contre une vilaine habitude que nous avons, celle de se donner une pseudo-paix qui ne vient pas de Dieu. Nous devons plutôt attendre celle qui vient de Dieu et qui l'accorde souverainement après que nous eussions authentiquement mortifié le péché dans nos vies. Le Seigneur lui-même nous montrera le ou les péchés que nous devons mortifier. La paix qui vient de Dieu durera, au contraire de celle de la pseudo-paix. La pseudo-paix, quant à elle, aura plutôt tendance à nous endurcir dans la rébellion. Owen nous avait expliqué les deux principes directeurs par lesquels nous pouvons nous assurer que notre paix vient de Dieu. Et il nous avait donné aussi 5 moyens pour discerner si notre paix vient du Seigneur. Alors, on arrive à la 14e leçon, et lui, ce qu'il dit, c'est que si tu veux vraiment pratiquer le péché, si tu n'as pas passé vraiment sérieusement à la mise en pratique des 13 leçons précédentes, tu vas manquer ton coup. Parce qu'elles sont préparatoires, elles sont nécessaires, elles sont essentielles. Alors, cette préparation-là est nécessaire si nous voulons avoir du succès dans la pratique quotidienne de la mortification du péché. Nous ne devons pas chercher à éviter ces étapes préparatoires ou à passer dessus d'une façon pas très sérieuse. Voyons maintenant ce qu'il a à nous conseiller sur la pratique elle-même de la mortification du péché. Il nous suggère 2 moyens, ou lui, ce qu'il appelle des directions en anglais, là. Alors, les deux moyens sont Christ et le Saint-Esprit. On va commencer par le premier moyen. Le premier moyen qu'il dit, c'est de fixer sa foi et la mettre à l'œuvre en se basant sur la personne de Christ. Nous pouvons le faire en sachant 2 choses. Christ a pourvu aux provisions nécessaires et, 2e chose, nous devons nous attendre ce que lui appelle « expectation of relief ». Alors, c'est vraiment savoir que Dieu nous a donné des provisions pour combattre le péché. Et la 2e chose, c'est de s'attendre à ce que Dieu va faire quelque chose. Alors, il explique les 2. Alors, « expectation of relief » en anglais, je l'ai traduit par « nous devons nous attendre à du secours et à du soulagement de sa part ». On va regarder le premier point. Christ a pourvu aux provisions nécessaire. La première chose que le croyant doit réaliser est le fait que le Christ a pourvu à toutes les choses nécessaires pour mortifier efficacement le péché dans nos vies. Il nous faut méditer sur le fait que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes à cause de notre immense faiblesse. Nous sommes instables comme l'eau, nous sommes pauvres et misérables. Mais nous pourrons le faire par la force que nous donne Christ et devenir des conquérants. Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout en celui qui me fortifie. » Jean 1, 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Moi, un passage que j'aime beaucoup, c'est 2 Pierre 1, 3 et 4. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Alors, ce qui est important à retenir, c'est comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, on ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas donné les moyens. Les provisions de Christ pour quelques besoins qu'on peut avoir sont là. Alors pour ceux qui sont fatigués par leur lutte constante avec le péché, Owen nous rappelle les mots du prophète Ésaïe, qu'on peut lire dans Ésaïe 40, versets 26 à 31. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi, dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Et ce que je voudrais qu'on remarque davantage, c'est les versets 29 et 31. « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et vous, ce qui est important, il dit, si jamais tu te sens fatigué de lutter contre le péché, pense à ces paroles-là, parce que ça dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Qui nous donne de la force? Pas nos propres forces. Dieu nous la donne. Nous devons constamment nous rappeler que sa grâce est suffisante pour nous. Nos tentations ne sont pas enlevées, mais il nous accorde volontiers la force nécessaire lorsque nous la demandons, et parfois, même sans que nous implorions sa miséricorde. En général, il l'accorde à ceux qui lui demandent, mais parfois il l'accorde sans même que tu lui aies demandé. La deuxième chose, donc on a vu que Christ a pourvu aux provisions nécessaires. Donc les moyens de lutter, de mortifier le péché, Christ les a tous pourvus pour nous. La deuxième, c'est qu'il dit, nos attentes pour du secours et du soulagement doivent être élevées. Nos cœurs doivent s'élever vers Dieu pour être secourus des maux, de l'inconfort et des problèmes occasionnés par le péché. Il est possible que le secours tarde un peu, mais nous devons nous attendre de le recevoir de Christ en son temps. Owen dit que nous devons fixer nos regards sur lui, comme l'esclave fixe son regard sur les mains de son maître. On le voit, par exemple, cette idée-là dans le psaume 123, verset 2. « Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Alors, c'est vraiment l'idée que les serviteurs, en l'ancien temps, il y avait la maître et la maîtresse, et les serviteurs surveillaient toujours la main, ce qu'ils faisaient. Ils leur montraient ce qu'ils avaient à faire. Alors, aussi, on voit la même idée dans le Habacuc 2, verset 3. « Car la vision attend encore son terme. Elle aspire à la fin et ne mentira point. Si elle tarde, attends-les, car elle arrivera certainement et ne manquera point. » Examinons les moyens que nous avons, que nous pouvons utiliser pour renforcer nos attentes. Alors, la première, il dit que si on veut renforcer nos attentes envers lui, on se doit de, premièrement, considérer sa bonté, sa miséricorde et sa tendresse envers nous. Il est notre souverain sacrificateur, assis à la droite de Dieu. Assurément, il a pitié de toutes nos détresses. Ésaïe 66, versets 10 à 14. Réjouissez-vous au sujet de Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés à la mamelle de sa consolation, afin que vous vous abreuviez avec délices à son sein glorieux. Car ainsi a dit l'Éternel, « Voici, je vais répandre sur elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur le côté, caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés dans Jérusalem, et vous verrez, et votre cœur en sera joyeux, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe, la main de l'Éternel se manifester en faveur de ses serviteurs et son indignation contre ses ennemis. » C'est vraiment l'idée de la consolation qui vient de la part de Dieu et il la compare à la tendresse qu'une mère a face à son enfant. On le sait qu'une mère qui aime son enfant, lorsque son enfant pleure, elle met sur ses genoux, elle console. Et c'est exactement l'image que Dieu utilise. « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Quelles belles images que le Seigneur éternel. C'est vraiment de la poésie. Il nous montre jusqu'à quel point il nous aime et il nous montre des exemples tirés de la vie quotidienne. Hébreux 2, versets 17 et 18. « En conséquence, il devait être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il devint compatissant et fût un souverain sacrificateur, fidèle dans les choses qui concernent Dieu, pour expier les péchés du peuple, car parce qu'il a souffert, ayant été lui-même tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Hébreux 4, versets 15 et 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses d'une manière semblable, le péché excepté. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour un secours opportun. » L'idée est que nous pourrons obtenir miséricorde, grâce et secours lorsque nous en aurons désespérément besoin. Alors, quand on a véritablement un besoin, quel qu'il soit, on se doit d'aller au trône de la grâce et on va l'obtenir. La deuxième chose qu'on se doit de se rappeler, si on veut, si on veut nous renforcer nos attentes, c'est de considérer sa fidélité. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'il nous l'a promise. Jérémie 31, versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Alors, vraiment, l'idée, le Seigneur compare sa fidélité aux lois terrestres, aux lois célestes, le soleil pour éclairer le jour, la lune. Tant que ces choses vont exister, ma fidélité va demeurer aussi envers vous. Psaume 130, versets 5 à 7. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Quels sont les avantages à avoir des attentes élevées d'obtenir l'aide de Christ? La première, c'est que le cœur et les mains de Dieu sont sensibles à ceux qui lui font confiance. Rien ne réjouit plus le cœur de Dieu que de voir ses enfants se confiant complètement en lui pour obtenir délivrance, secours, miséricorde et aide. Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. La deuxième avantage d'avoir des attentes élevées, c'est que l'âme s'engage à attendre sûrement et patiemment des réponses. Bien aimé, la, l'image qu'il utilise, il dit « De la même manière qu'un mendiant se place au bon endroit et au bon moment pour recevoir une charité, ainsi l'âme en besoin doit se mettre dans les circonstances d'attente et s'attendre à recevoir une miséricorde et une aide. » Ça me quand tu dis un mendiant, il va aller se placer à un endroit particulier et à un moment particulier parce que il s'attend de recevoir quelque chose. Alors, il nous compare au mendiant. Nous aussi, plaçons-nous au bon moment, au bon endroit et attendons-nous à ce qu'il va nous donner des choses. Lorsque nous cherchons la délivrance, nous devons nous concentrer et mettre le focus sur la mort de Christ, sur son sang et sur sa croix. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Romains 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi, lorsque nous fixons notre foi à l'œuvre, lorsque nous mettons notre foi à l'œuvre sur la personne de Christ pour la mortification du péché, nous le faisons toujours avec sa mort comme focus. Nous devons nous attendre à de la force spirituelle de ce fait. Notre expérience reflétera notre conformité à cette mort, alors la nôtre qui est en lui. Nous devons toujours garder par la foi le Messie crucifié devant nous sur une base quotidienne. Et le deuxième moyen, c'est se fier au Saint-Esprit pour son accomplissement, l'accomplissement de la mortification. C'est le Saint-Esprit qui complétera lui-même le processus de mettre à mort le péché. Nous devons cependant donner toute notre collaboration. Owen nous rappelle 6 importantes vérités concernant l'œuvre du Saint-Esprit dans la mortification du péché. La première vérité, seul le Saint-Esprit peut clairement et pleinement convaincre le cœur du mal, de la corruption, des convoitises, du ou des péchés à mortifier. Deuxième vérité, seul le Saint-Esprit révèle la plénitude de Christ pour notre soulagement. Ceci nous empêche de se tourner vers de mauvais moyens et de mauvaises voies. Troisième vérité, seul le Saint-Esprit nous établit le cœur dans la certitude que nous devons nous attendre de Christ pour la délivrance et le secours. Quatrième vérité, seul le Saint-Esprit amène la croix de Christ dans nos consciences et nous fait réaliser que nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Nous sommes donc morts en lui et avec lui. Cinquième vérité, seul le Saint-Esprit est l'auteur de notre sanctification. Il l'a commencé et il la terminera. En anglais, j'aime bien la manière dont c'est dit. Nous, ça dit le consommateur de la foi. En anglais, c'est « the finisher ». « The finisher of our sanctification ». Le Saint-Esprit, quand on dit un « finisher », on pourrait dire le finissant, mais ça se traduit. C'est celui qui termine l'œuvre. C'est le... je dis « il l'a commencé, il la terminera », alors ça dit l'idée. Mais en anglais, je trouve ça... L'idée est vraiment plus claire. « The finisher ». C'est lui qui l'a commencé, puis c'est lui qui va la terminer. Quand Dieu commence quelque chose, il finit. La sixième vérité, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Alors ça, on a tendance à oublier ça. On prie souvent. Mais l'Esprit nous dit que Dieu, le Saint-Esprit, complète les prières que l'on fait parce qu'il nous dit qu'on prie mal. De Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu sais, t'es en train de nous dire qu'on ne sait pas prier. Disons, on ne sait pas quoi demander. Mais l'Esprit doit dire, ben là, Seigneur, il doit vouloir dire ça. Hein. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient compléter, quelqu'un qui est mal habile dans son expression, puis tu viens dire, ben probablement qu'il a voulu dire ça. Là. Alors, c'est sûr que l'Esprit vient compléter nos prières, comme ça nous dit. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Un soupir, probablement, pour l'Esprit, dans son expression face à Dieu, un soupir est nécessaire. C'est juste dire, fais pitié ce qu'il vient de dire là, mais dans le fond, l'idée est ce qu'il veut se rapprocher de toi. Alors, c'est sûrement l'Esprit qui prie comme ça pour nous, et c'est une bonne chose qu'il le fasse, parce que lui, il sait quoi demander. Quelles sont les applications qu'on peut faire de cette dernière leçon? La première, c'est que les leçons apprises lors des 13 premiers sermons doivent avoir été mises en pratique si nous voulons exercer une pratique quotidienne, vigoureuse et victorieuse de la mortification du péché. Ne sautons pas d'étape par paresse ou par peur d'examiner l'état de notre âme. Moi, j'ai bien peur que quand on fait une série comme celle qu'on fait là, c'est qu'on soit porté à oublier rapidement les 13 premières leçons et même de ne pas avoir le courage d'aller faire ce qu'il dit, d'examiner si nos cœurs ne sont pas dans tel état. Il faut se questionner un peu. Et il ne faut pas uniquement, je pense, se questionner nous-mêmes. Il faut dire à Dieu, « Toi, sonde-moi sur ce point-là, parce que moi, je ne suis pas sûr que je le fais comme vous. » Alors, il nous dit de le faire. C'est important. Si on ne le fait pas, on n'aura pas de succès. La deuxième idée, mettons en pratique la mortification du péché en nous rappelant ces deux vérités essentielles et primordiales. La première, nous devons agir dans la foi en la personne et l'œuvre de Christ. Il a pourvu aux provisions de notre lutte. Autrement dit, tout ce qu'on avait besoin pour le faire, il nous l'a donné. Et on se doit aussi d'avoir des attentes, on a dit, qu'il se devait d'être élevé envers lui pour obtenir du secours, de la délivrance et de l'aide. Il est fidèle et miséricordieux. Il remplit ses promesses. Nous ne devons pas l'exiger, mais agir comme un homme qui tombe dans le sable mouvant, qui fixe ses yeux sur les mains qui s'étendent vers lui pour le secourir et s'agrippe à elle solidement. Moi, j'aime bien cette image-là. C'est comme le péché quand on t'adresse calé dedans. C'est vraiment comme si on se mettait deux pieds dans le sable mouvant, puis on se sent descendre tranquillement, puis on est arrivé aux genoux. D'un coup, il y a une main qui se présente comme ça. Pensez-vous qu'on ne la peignera pas? Alors, il dit, l'idée, c'est à peu près comme ça. Il a prévu pour les provisions, mais on se doit d'attendre. Alors, de plus, utilisons abondamment tous les moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition. Et là, moi, quand j'ai commencé cette leçon-là, je m'attendais à ce que les moyens de grâce qui est donné dans le cours des 13 leçons, pour ce qu'il fait du tout, il dit, oui, les moyens de grâce que le Seigneur a permis que tu aies dans ta vie, utilise-les, mais ne manque pas d'avoir fait le travail préparatoire. Parce que si tu ne le fais pas, tu peux manquer ton coup. Alors, là, il les nomme, les moyens de grâce, la parole. La parole, la fameuse parole, on en parle tellement souvent. La lire quotidiennement, l'étudier attentivement. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de chrétiens qui le fassent aujourd'hui, sérieusement, l'étude de la parole. La méditer, on l'a déjà mentionné, c'est quelque chose qui se perd. La mémoriser patiemment, quelque chose qui se perd encore également. L'écouter fréquemment, quand tu manques un culte, tu en as deux, tu en manques un sur deux, tu es déjà boiteux. Alors, l'écouter fréquemment, tout ça, c'est des moyens de grâce. Le Seigneur nous les a donnés pour qu'on les utilise pour nous fortifier, pour nous aider dans toutes sortes de... pour nous sanctifier, pour mortifier le péché, etc. Si on les utilise pas, puis on est faible, c'est pas de sa faute. Il nous a tout donné, comme on a vu dans 2 Pierre tantôt. Alors, la parole, c'est un immense moyen qu'il nous a donné. La deuxième, sûrement la prière, ce qu'on fait ce soir. La prière peut se faire de 3 façons. Individuelle, chez vous, retire-toi dans ta chambre, comme le Seigneur le dit. Et ma constatation de ce que j'ai vu dans 33 ans de vie chrétienne, c'est que le temps moyen mis en prière chaque jour est très bas, la plupart des chrétiens. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est faible aussi. Alors, il y a la prière individuelle qu'on ne fait pas. On prie peu et pas assez fervemment. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas, trois quarts du temps, on manque nos cultes familiaux. Les cultes, le père de famille, normalement, est celui qui est responsable d'établir le culte de la famille. Si on est un couple, on devrait avoir un culte en couple. Si on est une famille, le responsable de la famille devrait établir des règles pour, jusqu'à un certain point, imposer, mais ça ne devrait pas être perçu par les enfants comme quelque chose de plate. Si quelqu'un s'y est bien amené, les enfants peuvent aimer faire le culte familial. Et il y a aussi le fameux culte ecclésial. Ça, on a souvent dit que le baromètre de la santé spirituelle d'une église va voir le mercredi soir combien il y a de monde à la soirée de prière, puis tu vas avoir une idée. Alors, pas dur à mesurer, là. Tu arrives dans n'importe quelle église, c'est rare que le nombre de ceux qui sont à la soirée de prière soit aussi élevé que le dimanche matin. C'est une grave erreur que de pas comprendre ça, parce que c'est dès que tu as compris ça, tu as fait un grand pas dans ta vie chrétienne. Alors, la prière individuelle, familiale, ecclésiale, on est tous manquants jusqu'à quelque part sur un de ces choses-là. L'évangélisation. Le Seigneur ne nous a pas dit, si ça te tente, parle de moi aux autres, quand ça donnera. Saisis tous les moyens, toutes les circonstances. Évangéliser, c'est un commandement de Dieu. C'est pas laisser à notre discrétion si ça nous tente, si ça ne nous tente pas. On sait qu'on va souffrir s'il le fait, si on veut le faire. Faire connaître son nom, c'est une grâce aussi. Il ne faut pas oublier qu'évangéliser, c'est un privilège. Si on obéit, on a les bénédictions qui vont avec aussi. La communion fraternelle, c'est sûr que si quelqu'un ne vient pas à ses cultes une fois sur deux, ou il vient une fois sur trois, sa communion fraternelle est diminuée. Alors, on se doit de saisir toutes les occasions de développer des amitiés et des échanges avec les frères et sœurs. Que ça soit un repas, que ça soit le dimanche après le culte, toutes les occasions que le Seigneur nous donne de fraterniser avec des frères et des sœurs devraient être saisies. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe lorsqu'on est un groupe de chrétiens ensemble. On a tous des dons, et les dons se manifestent, puis ils circulent, même si on s'en rend même pas compte. C'est là quand même. L'adoration, bien entendu, tout à l'heure on le priait pour l'adoration. Ça aussi, dans ce que j'ai lu, sur les livres sur la prière, ils nous disent toutes qu'on a toute tendance à être des gimme-gimme. On appelle ça des gimme-gimme, mais en anglais c'est give me, give me, give me, give me. Alors on est toujours en train d'intercéder et de présenter des requêtes, ce qui est très bien. On a le droit de le faire et le Seigneur nous commande de le faire. Mais la chose qu'on ne fait pas, c'est de rester suffisamment longtemps en prière pour le laisser nous parler. Ça, on ne le fait plus. Tous les livres que tu vas lire sur la prière vont parler de ça. Quelque part, le temps qu'on se doit de demeurer en sa présence pour qu'il vienne parler à notre âme. On est tellement pressé de nos jours, c'est juste... Amen! C'est qu'on ne laisse pas le temps. Je suis convaincu de ça. Alors, l'adoration, la centralité de la personne de Dieu, qu'on s'habitue à avoir une intimité prolongée avec lui, qu'on cherche à conformer nos pensées, nos paroles, nos actions à sa volonté. Autre moyen de grâce, le service. Le Seigneur ne nous a pas mis dans une église pour dire « Assieds-toi, tu es un consommateur. » Tu n'es pas un consommateur, tu es un serviteur. On est tous des serviteurs, les uns au service des autres. Pas par le même moyen, mais on devrait, si on n'a pas de moyen de servir dans l'église, on devrait courir à prendre pour en avoir. Il n'y a pas rien de plus bénissant que de servir le Seigneur. Autre moyen de grâce, bien utiliser son temps, son argent, sont ou ses dons spirituels pour l'édification des autres. Il faut voir qu'il y a toutes des relations entre ces choses-là. Si tu ne vas pas tes cultes, ton don, les autres n'en profitent pas. C'est tout ensemble, ça se tient ensemble. Et l'obéissance aux ordonnances, le baptême par immersion, dès le début de ta vie chrétienne, et le repas du Seigneur, quand tu as une occasion de le prendre, prends-le, c'est une bénédiction, c'est un moyen de grâce que le Seigneur te donne. Un autre moyen de grâce, la confession immédiate de nos péchés pour garder notre communion avec lui. Ça, c'est une bonne habitude à prendre dès que tu te rends compte que tu fais une bêtise dans ta tête. Pardon, Seigneur, je viens de pécher. Puis nommer ton péché, il ne faut pas avoir peur de les nommer. Alors, il nous dit aussi, nous devons toujours garder sa mort, son sang versé et sa crucifixion devant nos yeux et nous souvenir que nous sommes morts en lui et avec lui. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous a donné pour nous sanctifier et nous conduire, nous a été donné pour nous sanctifier et nous conduire dans la mise à mort du péché. C'est lui qui nous convaincra du péché, nous révélera les infinies richesses de Christ, nous donnera de l'espérance pour délivrer nos cœurs de la misère du péché. Il nous rappellera constamment la croix de Christ. Il sera l'auteur, le souteneur et le consommateur, dans la version française, c'est le consommateur, mais moi j'aime bien le mot « finisher » de notre sanctification. Il nous supportera dans toutes nos luttes et dans tous nos désirs de mieux connaître Dieu et nous rendre libres. Implorons sincèrement l'Éternel de pratiquer quotidiennement et vigoureusement la mortification du péché dans nos vies pour obtenir une vie spirituelle forte, joyeuse, fructueuse et victorieuse par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Alors, juste mentionner pour le site web que j'ai préparé un sommaire et un aide-mémoire de l'ensemble des 14 sermons pour nous aider éventuellement, sans avoir besoin de relire l'ensemble des 14 sermons, pour qu'on puisse les réviser assez rapidement. Je les ai faites sur une feuille de 11 pouces par 17 pouces. Alors, je vais les joindre à mes notes de sermon pour ceux qui entendent ça. Alors, Seigneur, merci encore une fois de nous avoir donné cette série. Là, il nous a appris beaucoup de choses. Permet, Seigneur, qu'on soit attentif à tes directives, qu'on soit disposé, Seigneur, à vouloir utiliser tous les moyens, sans exception, en ne sautant pas d'étape et en faisant de cette mortification du péché une pratique quotidienne et constante, car nous savons que nous aurons à le faire jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Mais tu nous apprends aussi, Seigneur, que si nous le faisons de façon sérieuse, nous voguerons de victoire en victoire, et c'est la vie chrétienne victorieuse que nous devrions désirer par-dessus toute chose. Nous te le demandons par ta grâce et pour ta gloire. Amen.